6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux. Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Il est question aujourd'hui dans les enjeux internationaux des conséquences sociales du ralentissement économique en Chine.
Voilà, conséquences internes, économiques, sociales, avec notre invité Pierre Sabatier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes économiste, cabinet PrimeView. On va tout de suite voir comment la Chine accuse la croissance moindre depuis quelques temps. Vous nous direz d'ailleurs à peu près pour au moins l'année 2016 ce qu'on prévoit comme croissance. J'ai vu hier dans un certain nombre de documentations, à tort ou à raison, on parle de 6, 6,5. D'ailleurs, il faudrait voir comment elle est calculée, si le chiffre est fiable. Alors, précaution évidemment méthodologique, Pierre Sabatier, toujours délicat, artificiel, dangereux, de généraliser sur la Chine. C'est un pays peuplé, 1 milliard, presque 400 millions d'habitants, 380, divers, contrastés, vastes. Et puis, à force de vouloir être mesuré juste, on arriverait à ne plus rien dire. Il faut quand même généraliser. Alors, sachant qu'il y a aussi une grande différence entre les grandes métropoles ou mégalopoles et les villes de province, entre les citadins et les ruraux, entre les ruraux et les réels paysans, et ainsi de suite. Alors, comment caractériser le moment actuel? Comment réagissent notamment les classes moyennes? Et puis, la marge de manœuvre, évidemment, des autorités. Alors, où en est-on aujourd'hui, globalement, Pierre Sabatier?
Alors, vous avez très bien introduit le sujet, parce que la problématique, lorsqu'on parle de Chine, c'est qu'on parle d'une Chine qui est un pays continent, premièrement. Et deuxièmement, surtout pour nous, analystes, économistes, vous savez, notre métier, c'est normalement construire des diagnostics et des solutions qui pourraient être associées à ces diagnostics sur la base de chiffres. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la qualité des données qui sont disponibles pour juger de la santé passée, actuelle et future de la Chine est relativement médiocre, en tout cas de bien moindre qualité que ce qu'on peut trouver dans des pays occidentaux avec un plus grand historique sur ce type de sujet.
Juste d'un mot, la quid de la fiabilité technique des chiffres officiels?
Elle est quasi nulle, donc il faut en fait feinter, voilà, il faut se débrouiller pour trouver des corrélations qui vont faire que, et je vais vous en donner une très très simple, vous savez, lorsqu'un pays comme la Chine consomme la plupart des matières premières dans le monde, sur les métaux industriels par exemple, c'est quasi la moitié de la demande mondiale, et bien tout simplement, lorsque les prix montent, ça veut dire que le pilier ou le premier consommateur, en général, avance vite, et lorsqu'il baisse, ça veut dire aussi que ce premier consommateur ralentit. Et donc on va beaucoup utiliser le prix des matières premières pour essayer de juger, de jauger de la qualité de la croissance en Chine, et beaucoup plus que les 6, 6,5 ou 7% qui sont finalement une forme de propagande économique orchestrée par le parti, puisqu'une petite anecdote, vous savez que ces chiffres-là, les Chinois sont les recordman du monde de vitesse pour produire les chiffres économiques de la richesse créée par an. Dire qu'il leur faut simplement 15 jours, alors que l'Europe et aux États-Unis leur faut plusieurs mois pour fournir le chiffre de la croissance qui a été réalisé au trimestre précédent, alors qu'en Chine on met 15 jours, alors qu'on est sur un pays continent extrêmement hétérogène. Donc ça vous donne simplement une idée de la piètre qualité des données à disposition. Donc il faut regarder d'autres choses, des choses qui ne servent pas pour les pays plus classiques, et surtout essayer de mesurer ce que les Chinois pensent eux-mêmes de leur économie. Et c'est là véritablement la clé. Et la manière dont on le regarde aujourd'hui, et c'est ce qui nous rend un peu sceptiques quant aux perspectives pour la deuxième économie mondiale maintenant, c'est que les Chinois qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont bénéficié à plein du superbe cycle économique que la Chine a connu de 2001, date de son entrée sur la scène internationale en termes de commerce
d'ailleurs
mondial, exactement, et 2013-2014, donc non, il n'y a pas eu de constitution de classe moyenne en Chine. Il y a eu une constitution, en fait, une classe d'hyper riches qui a bénéficié à plein de ce mouvement-là. Et la réalité, c'est que cette classe d'hyper riches qui a accumulé du patrimoine, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, elle s'en va. Voilà. Il y a deux véritablement, il y a un seul objectif, c'est s'en aller. Alors, soit s'en aller physiquement, soit faire partir son argent. Et il faut bien comprendre le mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des investisseurs chinois qui arrivent en Suisse, aux États-Unis, et qui, dont le seul objectif n'est pas véritablement en fait d'accumuler plus de patrimoine, mais de le préserver. Or, aujourd'hui, l'inquiétude des Chinois et des Chinois qui ont réussi par rapport à leur pays, c'est essentiellement le risque d'effondrement monétaire, c'est-à-dire que la valeur de leur monnaie baisse au regard en fait des problèmes conjoncturels, voire l'instabilité sociale qui pourrait émerger dans un pays où les taux de croissance sont plus suffisants pour l'acheter. Voilà. Et donc, face à ça, quand vous avez accumulé une fortune, vous ne voulez pas la perdre. Si vos perspectives, si votre analyse font que la monnaie dans laquelle ma fortune a été accumulée va baisser, en général, vous essayez de la transférer ailleurs. Et
alors,
c'est le mouvement qu'on constate depuis 2 ans aujourd'hui.
On va vous dire, Pierre Sabatier, le marché intérieur, où en est-il? On a souvent dit que c'était un immense réservoir naturel pour le pouvoir.
C'est une image intéressante, mais qui n'est pas réaliste et réelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, la constitution de la classe moyenne chinoise, c'est d'abord une constitution de classe d'hyper-riches. Et d'ailleurs, quand on observe, quand on analyse ce qu'ils consomment, c'est beaucoup plus en lien avec cette classe d'hyper-riches que véritablement...
Notamment du luxe.
Exactement, une classe moyenne. Toutes les grandes sociétés exportatrices occidentales vers la Chine se portent bien, mais qu'est-ce qu'elles vendent ? Elles vendent effectivement des produits de luxe et pas des produits en fait qui sont habituellement constitués des classes moyennes. Alors les classes moyenne aujourd'hui, concrètement, ça va. Ça va pour une raison assez simple, c'est que aujourd'hui, l'économie chinoise est tenue à bout de bras par la sphère publique. Depuis, on a vu une accélération en fait du ralentissement milieu d'année 2015, et le gouvernement paniquant face au risque d'instabilité sociale qui arriverait avec en fait un taux de croissance qui baisserait ou qui ne serait plus suffisant pour acheter la paix sociale, en paniquant, a dit on va réutiliser les mêmes leviers qui nous ont servi au cours des années passées, à savoir on va mettre le paquet. Le paquet, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un déficit public qui explose, une distribution du crédit auprès notamment des entreprises publiques pour leur permettre de continuer à embaucher, donc qui explose également, ce qui fait qu'à court terme, ça marche, c'est-à-dire qu'on a une classe moyenne qui survit, qui ne grogne pas encore véritablement, mais il faut bien avoir en tête que c'est au prix, en gros, d'une distribution de crédit, d'une dette abyssale, qui augmente à des niveaux qui sont incroyablement rapides et pour atteindre des proportions qui sont les plus élevées dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà même des chiffres que vous connaissez dans les pays occidentaux, et pourtant ça nous inquiète. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour l'instant, c'est le calme, voilà, mais la question de fond, c'est combien de temps ça peut durer.
Oui, c'est une réponse un peu dilatoire des autorités par des moyens donc très pragmatiques. La monnaie, c'est-à-dire le yuan, alors au fond, est-ce qu'il continue à être dévalué par les autorités ?
Alors, ce n'est pas les autorités qui dévaluent le yuan. Souvent, en fait, on entend dire les autorités essayent de maintenir, les Chinoises essayent de maintenir la compétitivité de leurs entreprises en laissant filer leur monnaie, en baissant leur monnaie. La réalité, c'est que c'est tout l'inverse. Normalement, le yuan devrait baisser beaucoup plus fortement au regard de la fuite des capitaux des Chinois en dehors de Chine. La réalité, c'est que le gouvernement fait l'inverse. Il essaye de limiter cette baisse en, alors je ne vais pas rentrer dans la technique, en liquidant les réserves de change accumulées par la Banque centrale au cours des années passées.
Qui sont les plus grandes du monde.
Qui sont les plus grandes du monde, mais qui diminuent. Pour un chiffre, simplement,
on était à peu près... Sensiblement.
Sensiblement, on est passé de grosso modo 4 000 milliards de dollars accumulés en milieu d'année 2015, aujourd'hui 3 000.
C'est-à-dire qu'en fait, on a liquidé... Un quart.
Voilà, un quart, exactement. Donc il y en a encore beaucoup. Mais bon, à ce rythme-là, ça fond relativement rapidement. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, le chemin est étroit. Le chemin est étroit parce que les gouvernants sont assez conscients de ce que j'évoque là. C'est-à-dire que, véritablement, il faudrait transformer le moteur de croissance en Chine de l'extérieur ou de l'investissement ou reposant sur de la dette vers un marché intérieur solvable. Mais pour ça, il faudrait payer plus les Chinois. Et pour payer plus les Chinois, il faudrait que les entreprises chinoises soient en capacité de supporter cette appréciation-là, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles aient la capacité à augmenter leur prix de vente. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça pour dire que pour faire ça, il faudrait accepter une récession brutale qui ne serait pas durable pour purger les surcapacités de production en Chine. Le problème des Chinois aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de tout. Il y a trop d'usines, il y a trop d'infrastructures, il y a trop de voies ferrées, etc. Et ce qui fait que, en ayant, je dirais, une surcapacité généralisée, elles empêchent les entreprises, en fait, sur place, ou ne autorisent pas les entreprises sur place à supporter une hausse des salaires. Tant que vous n'aurez pas de hausse généralisée des salaires, parler de la classe moyenne en Chine et d'auto-alimentation de sa croissance devrait rester, pour le moment, une utopie.
Juste d'un mot, alors Pierre Sabatier, je rappelle que vous êtes président de PrimeView Cabinet, donc juste une chose, un adjectif que je vous demande pour terminer, en ce qui concerne la marge de manœuvre des autorités, justement, comment est-ce que vous pourriez la caractériser d'un mot, mais vraiment d'un mot ?
Extrêmement réduite. Aujourd'hui.
Ça fait un adverbe et un adjectif.
Voilà.
D'accord. Bon, écoutez, c'est à suivre. Merci en tout cas de cet éclairage. Et franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Merci à nos amis auditeurs d'être aussi nombreux à le faire. Et puis nous retrouvons Émilie
demain,
Chaudet demain.
Autour de l'Italie.
Autour de l'Italie, il y a un référendum le 4, c'est-à-dire, sauf erreur, dimanche. Est-ce qu'on va vers des législatives anticipées, puisque apparemment, c'est pas le Premier ministre d'ailleurs, c'est le président du Conseil, si mes souvenirs sont bons, en Italie, devrait perdre le référendum. Notre invité sera Pierre Musso.